Radiophone. Entretien avec Michel Kreutzer, éthologue. Une émission réalisée par Olivier Lostis.
Bonjour auditeurs de Radio Grand Ciel, vous êtes à l'écoute du tome 6 de Radiophone avec Michel Kreutzer. La dernière fois, nous avons beaucoup évoqué les questions de spiritualité, donc le maître mot était peut-être croire. Aujourd'hui, on va aborder plutôt la question des savoirs, justement, des savoirs, de la transmission, de la manière dont on peut penser que les animaux font civilisation, c'est-à-dire construisent quelque chose de collectif, bâtissent quelque chose de collectif.
Oui, bonjour. Ben, vaste question, effectivement. Il y a environ un an et demi, Anne-Christine Taylor, qui était la responsable scientifique au musée Branly-Jacques Chirac, avait, dans le cadre d'une série de conférences qui s'appelait « L'apprendre chez l'animal », l'université populaire du musée Branly, avait posé cette question. L'apprendre chez l'animal, comment le savoir s'apprend et se transmet? Alors, moi, j'étais venu pour parler de ceci chez les animaux. Les éthologues, pendant très longtemps, sont intéressés, je dirais, peut-être plus aux individus qu'aux sociétés animales. Ils vivaient dans des groupes. Voilà. Le passage de l'individu au social était quelque chose qui était considéré comme, pendant très longtemps, comme peut-être quelque chose d'important chez l'humain. Voilà. D'un seul coup, l'individu devient sociable et à travers la sociabilité, il acquiert quelque chose qui est de l'ordre des relations qui sont plus difficiles lorsqu'il se livre seul à ses activités qui étaient considérées parfois comme un peu instinctives. Voilà un petit peu des visions simplistes qu'il y a eu de la vie animale, parfois aussi humaine, sur les origines de la sociabilité chez les humains.
Est-ce que ce n'est pas un biais méthodologique aussi, ça, simplement parce que on parle beaucoup hein, dans les sciences sociales de l'individualisme méthodologique ou du holisme, c'est-à-dire en fait la manière de considérer l'individu, et ensuite de voir comment il se comporte dans des espaces de plus en plus grands et nombreux, ou alors le fait de considérer le collectif lui-même comme agissant, comme un corps qu'on peut étudier en soi sans s'intéresser en quelque sorte aux individus qui le composent. C'est un peu deux écoles qui existent dans toutes les disciplines.
Oui, et c'est pour ça que j'aimais bien, moi, ce qu'on appelait la psychologie sociale, où à la fois on considère l'individu, et en même temps l'individu est dans une société, mais c'est pas la société qui fabrique totalement l'individu, il possède une certaine singularité au sein de cette société, et on ne fait pas de n'importe quoi de n'importe qui. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours eu des réticences, moi, à regarder les approches uniquement sociales, en même temps que celles qui étaient uniquement individualistes. Mmh. Voilà. Oui, il y a du singulier, mais il y a du singulier dans du général et de l'interaction de groupe. Donc, ce n'est que depuis, disons, un demi-siècle, peut-être, un peu plus, que l'on s'intéresse vraiment aux sociétés animales chez des espèces qui sont, disons, des mammifères. Mmh. Oh, c'est beaucoup intéressé aux insectes sociaux, hein, réaumures, etc. Voilà, les abeilles, ça a toujours fasciné les humains. Peut-être aussi parce qu'en Europe, on n'avait pas beaucoup de groupes sociaux tels qu'on peut en connaître chez les lions, chez beaucoup d'espèces de primates. Ce qu'on connaissait comme animaux qui vivaient en groupe, c'était les troupeaux d'animaux domestiques, mais qui sont sortis de la nature et qui n'avaient pas forcément grand-chose à nous apprendre dans une comparaison avec les humains. Les affaires ont commencé à changer lorsque, dans les années 50, les Japonais, notamment Imanishi, a étudié des macaques et a dit, en regardant ces macaques, regardez, ils ont des cultures. Il y a des choses qu'ils apprennent et qu'ils transmettent, qui se transmettent à la génération suivante. Mmh. Alors, l'expérience ou l'observation principe en affaire, ce sont ces macaques qui nettoient des patates douces qu'on leur donne à manger sur une plage, pour les attirer, pour les voir, on leur donne à manger, ils viennent et certaines, une femelle va aller prendre ces patates et qui sont enrobées de sable et trempées dans l'eau de mer et pour les manger, et à ce moment-là, le sable a disparu. En même temps, on va s'apercevoir que même quand le sable a disparu, elle retrempe à nouveau la patate douce dans l'eau de mer parce qu'il y a un goût salé qui doit plaire. Et ceci va se transmettre à ces jeunes et puis à la génération d'après. Donc il dit quelque chose qui n'existe que dans un groupe et pas dans tous les groupes, quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre, voilà, on a affaire à un phénomène culturel. Mmh. D'autres disent non, c'est pas de la culture c'est beaucoup plus vaste, ce sont uniquement des traditions, alors on fait la distinction entre tradition et culture. Bon, mais peu importe. Et également, ce que Imanishi et d'autres avaient montré au Japon avec ces macaques, c'est que les femelles gardaient toujours des contacts privilégiés avec les jeunes qu'elles avaient eus, mais qu'ensuite, dans la vie, elles n'avaient pas de relations sexuelles avec les jeunes, avec les mâles qui étaient leurs fils. Donc certains disent...
Le fameux interdit de l'inceste.
Ah, interdit de l'inceste,
l'universel
regarde,
humain.
Voilà, quelque chose qu'on croyait spécifique à l'humain. Ouais. Voilà que des macaques ont des comportements similaires aux nôtres, de ce point de vue. Donc ça, ça avait énormément marqué les esprits. Les macaques sont d'ailleurs toujours d'actualité, parce que la semaine dernière, à la maison du Japon, à Paris, il y a un film qui a été projeté sur des macaques japonais qui investissent des zones où il y a des sources thermales chaudes, et ils vont se baigner. Et tous les macaques, tous les groupes de macaques ne font pas cela. Certains seulement font ça. Et puis, c'est très recherché. Il y a des individus qu'on exclut d'eau. Tout le monde n'a pas le droit d'aller dans cette source thermale pour se baigner. Donc là, il y a toujours une culture qui est étudiée chez ces macaques. Alors, comment ça se transmet? Qui imite qui? Est-ce que les parents font quelque chose pour que les jeunes apprennent cela? Ou est-ce que c'est les jeunes qui se saisissent des parents? Ou étant au contact des parents, ils font la même chose?
Oui, parce que nous, on voit à peu près comment les choses se transmettent dans un monde humain. On y est. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les règles familiales, et puis il y a l'école, enfin, il y a des institutions. C'est... Le savoir et la transmission sont des choses extrêmement institutionnalisées chez nous.
Mais... Alors, extrêmement institutionnalisées, mais il y a des groupes humains où il n'y a pas d'école. Les jeunes c'est apprennent vrai. En regardant les parents, au contact des parents. Comment ça se transmet? Bon, les choses ont également énormément évolué à partir du moment où un anthropologue, pas un éthologue, un anthropologue, Louis Leakey, confie à Jane Goodall le soin d'observer des chimpanzés en lui disant qu'il y a là sans doute un moyen de comprendre l'organisation sociale des humains et des homos à l'origine. Il n'y a pas assez de travaux. Et il ne fait pas confiance beaucoup à l'académisme, aux éthologues de l'époque, en disant « ils ont leur grille de lecture et ces grilles de lecture-là va les enfermer dans des observations. Je veux un regard neuf et un regard empathique et il n'y a qu'un regard de femme, très sexiste, n'est-ce pas, qui peut être empathique à ce point pour comprendre l'activité des chimpanzés. » Jane Goodall est fascinée par les animaux depuis son enfance. Elle est en Afrique, elle rencontre Leakey et voilà le coup de foudre intellectuel passe et elle s'installe près du lac de Tanganyika à Gombe en Tanzanie. Et là, rapidement, elle va faire des observations extraordinaires. Elle va voir notamment ce mâle qu'elle appelle Greybeard, c'est-à-dire barbe grise. Et qui va chercher des brindilles, enfonce ses brindilles dans des termitières, les termites s'accrochent à la brindille et il est mort. Autrement dit, il a fabriqué un outil. Là, ils se disent, voilà, la spécificité de l'humain, encore une spécificité
qui
de
tombe.
L'humain qui tombe.
Une frontière
qu'est-ce,
en moins.
Qu'est-ce qui va nous rester? Et elle va poursuivre, Jane Goodall, elle va poursuivre ses observations en observant les relations entre les mères et les jeunes. Et à son grand désespoir, en tout cas, elle va être médusée lorsqu'elle va voir qu'un groupe de chimpanzés qui avait fait scission à un moment donné, il y a un des deux groupes qui va complètement exterminer l'autre pour s'approprier l'espace dans lequel il vit. C'est-à-dire exterminer, ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Donc,
encore une spécificité humaine qui disparaît.
Voilà la guerre. Voilà la guerre qui disparaît. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Jane Goodall a toujours dit que son animal préféré, c'était le chien. Elle n'a jamais dit que c'était les chimpanzés. Elle aimait beaucoup les chimpanzés et elle lui a consacré sa vie parce qu'après ses observations, elle va devenir globe-trotter pour défendre leur cause et les habitats dans lesquels ils sont. Mais la question qui est posée, c'est comment ça se transmet? Et là, on a d'autres chercheurs depuis qui ont notamment regardé chez les chimpanzés les techniques qu'ils utilisaient pour casser des noix avec des cailloux. Est-ce que les parents expliquent aux jeunes la manière dont il faut s'y prendre, leur montrent, on fait des démonstrations, prennent une noix, un caillou et leur montrent comment ça se casse.
Une école, quoi.
Ouais. École. Ou est-ce que c'est les jeunes qui regardent les parents? Il faut dire que les jeunes restent au contact plusieurs années des parents. Les petits sont accrochés au dos de la mère. Ils voient les mères casser ces noix, vont aller chercher des cailloux, prendre des branchages, etc. Ils peuvent observer quelle est la technique qui marche. Mais quand eux-mêmes s'y essaient, ils ratent souvent. Il y a des tas de films comme ça où on les voit essayer, rater, aller reprendre une autre pierre, prendre un morceau de bois, rater. Mais on ne voit que rarement, il y a quelques exemples, où les parents viennent, tiennent la noix ou la pierre et montrent de quelle manière. On voit rarement aussi, mais ça a été vu quelques fois. C'est pour ça que les auteurs disent qu'il y a éducation chez l'animal. Les cas d'éducation sont extrêmement rares. Où une femelle donne une brindille à un jeune parce que sa brindille s'est cassée et puis lui montre comment on plonge la brindille dans le trou pour récupérer des termites ou bien des fourmis. Donc, les auteurs sont partagés actuellement. Il y a ceux qui disent oui, il y a éducation, et puis il y a ceux qui disent non. On connaît de l'éducation ailleurs. Chez des mammifères marins, des femelles montrent à des petits comment, après s'être échoué sur une plage, on retourne à l'eau. Les guépards semblent apprendre à leurs petits de quelle manière on doit courir, on doit s'y prendre pour chasser des proies. Mais ce genre d'éducation paraît extrêmement quand même assez rare. Donc, est-ce que c'est une spécificité humaine, l'éducation? Il faudrait savoir comment elle est apparue et comment elle a été faite. Ou bien, est-ce que c'est largement partagé? Certains voient aussi un rôle que pourrait jouer ce qu'on appelle les neurones miroirs. Le terme m'échappe là, le fait d'attribuer des intentions à l'autre, voilà. La capacité d'attribuer des intentions. En voyant que l'autre ne réussit pas, on se dit qu'il ne sait pas faire parce qu'il lui manque ça, et alors à ce moment-là, on se met à sa place et on le fait. Bon, pourtant, cette théorie de l'esprit, voilà. Cette théorie d'esprit, on sait que des animaux longs, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont l'utiliser, qu'ils se livrent à une éducation. Mmh. Voilà des choses qui sont particulièrement actuelles, et des questions qui sont particulièrement actuelles dans le domaine de la transmission des savoirs.
Nous allons faire une petite pause musicale et reprendre juste après, peut-être sur justement ces questions de ce qui s'apprend et ce qui est déjà inscrit, l'éternel débat inné acquis. Mais on écoute un peu de musique animale. I was in the kitchen, shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen. Shameless mouth hells outside. Well, the sun sinks slowly, but my old hell folks sat right down and cried. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Faune sur Radio Grand Ciel avec Michel Kreutzer. Michel, juste avant la pause musicale, donc vous nous aviez bien détaillé toutes ces questions d'éducation ou pas d'éducation chez l'animal, comment ça se passe, comment ça se transmet. Donc vous semblez faire allusion à quand même une notion forte d'acquisition. Mais souvent, quand on évoque les animaux, parfois aussi quand on évoque les humains d'ailleurs, il y a cette question de ce qui est acquis, ce qu'il est possible d'apprendre et de ce qui est inné. Alors, est-ce que c'est un modèle qui vous est utile, vous, en éthologie, ça ?
Alors, moi, quand j'ai commencé mes travaux d'éthologie, c'était la grille de lecture qui était la plus importante. Et sans doute, elle nous venait, cette grille de lecture, des travaux qu'avait fait Lorenz et l'école objectiviste, Lorenz et Tinbergen, parce que Lorenz attribuait une grande partie de nos comportements à des prédispositions innées. Alors que, et il s'opposait en cela à l'école américaine des behavioristes qui, eux, pensaient que la plupart des comportements faisaient l'objet d'apprentissage, notamment d'apprentissage dit de type associatif. Bien. Donc la querelle innée-acquis, elle était au début de l'éthologie, elle reste aujourd'hui parce que dans l'esprit de beaucoup d'auteurs et du public, parfois, et d'auteurs, il y a l'idée que à l'instinct, on oppose l'intelligence. Alors l'instinct, c'est ce qui serait inné, et l'intelligence, c'est ce qui relèverait de l'acquis. Bon, cette grille de lecture, elle existe toujours, mais il y a d'autres grilles de lecture qui sont venues petit à petit la remplacer. Mais moi, j'ai été confronté à cette grille de lecture innée-acquis avec les chants d'oiseaux. Parce que lorsque l'on met un oiseau en isolement acoustique, il ne chante pas normalement, il ne chante pas les chants de son espèce, il a besoin d'entendre des chants de son espèce pour les chanter. Mais il a des prédispositions pour plutôt apprendre les chants de son espèce que d'autres chants. Maintenant, chez les oiseaux, il existe quelque chose qui nous ramène à ce qu'on appelle la culture, des traditions, il y a des dialectes. Tous les oiseaux d'une même espèce ne chantent pas exactement la même chose. Il y a des différences, il y a normalement des différences d'une région à une autre, d'une localité à une autre. Et tous les individus d'une même localité, chez beaucoup d'espèces, pas chez toutes, ont des chants qui se ressemblent beaucoup, d'où l'idée de dialecte. Mais ces dialectes, ils peuvent être acquis par un phénomène d'apprentissage qu'on pourrait dire presque culturel. Si un oiseau d'un dialecte vient dans une région d'un autre dialecte, un oiseau des individus de la même espèce, parfois on s'aperçoit qu'au bout d'un an, deux ans, il va chanter le chant du dialecte de la région dans laquelle il s'est installé, fait de ses interactions. Mmh. Donc, et il est acculturé, il change sa culture de vocalisation. Donc, adulte, il peut réapprendre quelque chose. Donc, les dialectes chez les oiseaux étaient l'un des premiers critères aussi avancés pour montrer qu'il y avait des traditions chez les animaux, qu'il n'y en avait pas simplement chez les primates. Il y a souvent cette petite compétition entre les ornithologues et les primatologues. Oui, vos oiseaux ne font pas aussi bien que nos primates. Et la réponse est détrompez-vous, ils font des choses bien plus complexes que vous pouvez l'imaginer. Vous ne savez pas tout ce que les oiseaux peuvent faire.
Bon, mais il y a des choses quand même qui sont très troublantes parce que on sait que, par exemple, on va parler des animaux domestiques peut-être un petit peu, parce que la question des apprentissages est peut-être très très forte de ce côté-là, dans la mesure où ils ont appris des choses des humains. Mais prenons un chien de berger, par exemple. J'ai un chien, aujourd'hui elle est très vieille, une chienne qui a 15 ans, mais je me rappelle que lorsqu'elle était toute petite, elle n'avait pas encore un an. À ma grande surprise, en randonnée, tout d'un coup, elle croise des moutons. Elle s'est précipitée vers eux, elle a fait le tour des moutons un peu trop éparpillés, et une fois que ces moutons étaient totalement groupés, ensemble, elle a continué son chemin, ça ne l'intéressait plus. Comme si elle avait appris à regrouper un troupeau de moutons. Ça m'a fasciné, puisque je ne lui ai absolument jamais appris à faire ce genre de choses, je lui ai appris plein de trucs, mais pas ça, quoi. Donc c'était... est-ce qu'un comportement élaboré, quand même relativement élaboré comme celui-ci, peut ne pas être appris, peut être un peu presque programmé chez un animal.
Alors ça, c'est un type d'observation qui aurait beaucoup plu à Lorenz, c'est sûr.
Sans doute.
Et ce qui montre qu'en dépit de la domestication, en dépit de la domestication, des comportements ancestraux perdurent. passe d'une génération à l'autre, même sans apprentissage. Et là, il s'agit d'un comportement qui n'aurait pas simplement été acquis parce que les humains auraient dressé les chiens et ça serait transmis de génération en génération. Mais le fait d'encercler, de rabattre, etc., c'est sans doute quelque chose qui existait dans les meutes de loups.
Qui ressemble à la chasse, quand même.
Quand ils chassent. Donc, oui, de ces expériences phylogénétiques, aurait dit Lorenz, il reste quelque chose. Et je ne dis pas que la grille de lecture innée acquis est tellement obsolète. La preuve, vous en faites l'observation. Mais elle a été trop prégnante à un moment donné. Elle n'est pas la seule possible quand on regarde les animaux. Mais moi aussi, j'ai eu des chiens, des chats, comme on dit, les chiens ne font pas des chats, les chats ne font pas des chiens. Et il y a des comportements de félins qui sont tout à fait surprenants, même chez un chat domestiqué qui vit en appartement. Le fait que d'un seul coup, ils se mettent à observer quelque chose qui, sous les meubles, ils recherchent. Voilà. Il n'y a pas de souris dans les appartements, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il pourrait y en avoir. Enfin, voilà. Le fait de chasser à l'affût reste quand même, ou d'observer à l'affût reste quand même quelque chose qui est inscrit dans leur répertoire comportemental, je dirais.
Oui, c'est quand même des questions tout à fait troublantes. Alors, justement, ça pose la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-être que c'est une question un peu casse-pied aussi pour un éthologue, mais c'est un terme...
C'est le meilleur, c'est là qu'il faut le poser.
Ben, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Voilà, on parle... Vous l'avez évoqué.
Autrefois, à la radio, sur une émission, c'était « Bravo, Monsieur Champagne » ou quelque chose comme ça. C'était un historien et ses élèves cherchaient toujours à le coller, c'est ça. Et mes étudiants aussi. Mais c'est une question importante parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est coincé, on ne sait pas répondre, ce qui montre les limites de nos connaissances.
Mais là, c'est justement, c'est quelque chose qui est très inscrit, comme un terme qu'on utilise beaucoup dans le langage commun, c'est la question de l'instinct, quoi. Parce que est-ce que l'instinct, ça peut être caractérisé, est-ce que ça peut être défini, et puis d'ailleurs est-ce que ça peut s'appliquer aussi à l'homme, pourquoi pas. Mais si on peut parler d'instinct et si on peut l'opposer, comme vous le faisiez tout à l'heure très rapidement, à l'intelligence, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est que l'instinct, qu'est-ce que ça pourrait être que l'instinct?
Alors Peter Marler, qui était un très grand éthologue et qui a beaucoup travaillé sur le chant des oiseaux, disait que les oiseaux ont un instinct pour apprendre à chanter. Ils ont un instinct pour chanter. C'est-à-dire que c'est irrépressible. Mmh. À une époque, j'ai capturé des jeunes qui avaient un ou deux jours en nature. Je les ai mis en cage, en isolement acoustique. À l'époque, on ne se demandait même pas si on pouvait être autorisé. Aujourd'hui, ce ne serait plus autorisé. On ne serait pas autorisé à faire cela. Et ce que j'avais noté, c'est que au bout de quelques mois, lorsque on plaçait les mâles en jour long, ils se postaient et ils chantaient. Même si leur chant n'était pas adressé à quelqu'un, ils étaient seuls dans les cages. Et personne ne pouvait l'entendre. Ils n'avaient pas appris de chant de leur espèce. Ils n'avaient jamais vu d'adultes chanter. Ils allaient se poster dans les pseudo-arbustes qu'on leur mettait dans les cages. Et ils chantaient. Ils chantaient à peu près, parfois, plusieurs dizaines de minutes, plusieurs fois par jour. Donc, on peut dire, ils auraient pu faire l'économie de ça, se taire, puisque ça ne servait pas à grand chose. Donc, il y avait quelque chose d'irrépressible. Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'eux. Alors, ne pas pouvoir s'empêcher d'eux, c'est souvent cela qu'on appelle l'instinct, on a l'impression d'une programmation. Alors, dans beaucoup de recherches, on dit oui, mais il y a toujours des stimuli qui viennent de l'extérieur. Là, des stimuli qui viennent de l'extérieur, je ne les voyais pas. Je ne les voyais pas. Sinon, qu'ils avaient été mis en jour long, oui, qui correspond au printemps, à la période où les oiseaux se mettent à chanter. Donc, ça ne me gêne pas de parler, dans ce cas-là, d'un instinct, comme le faisait Marler. Après, il faut voir jusqu'où la notion d'instinct peut être utilisée. On ne peut pas la ressortir à tout bout de champ pour tout expliquer. Voilà. Un instinct d'apprentissage, un instinct maternel. D'ailleurs, ça peut être contre-productif de trop utiliser un concept ou une notion. Je prends l'exemple suivant. Je suis beaucoup intéressé aux oiseaux. Un jour, des auteurs se sont demandé si les femelles oiseaux pouvaient non seulement pondre des œufs dans leur nid, mais ne pourraient pas aller pondre dans le nid d'une voisine, ce qui augmenterait le nombre, parce qu'il y avait une question théorique derrière, ce qui augmenterait le nombre de gènes qu'elles transmettent à la génération suivante. Et des auteurs, c'est pas possible, il y a l'instinct maternel, quand même. Elles vont élever leurs petits, on ne va pas comme ça abandonner ses petits à la voisine. Ce n'était pas totalement dit, mais il y avait ça. Et ils se sont rendus compte que ça existait, et ils pouvaient le voir, ils auraient pu le voir depuis très longtemps. Les ornithologues vont en nature, ils auraient pu voir que les femelles allaient pondre dans le nid des voisines.
C'est fascinant comme biais, qui nous empêche de voir.
Voilà. La grille de lecture, j'avais un collègue à Nanterre qui était en psychologie sociale, de Conchy, qui avait l'habitude de dire « il faut se méfier parce que les théories sont totalitaires et impérialistes ». Voilà, elles ont l'habitude de nous mettre des œillères, de nous obliger à regarder d'une certaine manière, non seulement cela, mais à essayer d'exclure les autres théories qui, dans le même champ, voudraient expliquer également les faits que l'on observe. Alors, ce n'est pas les théories qui le sont, ce sans doute sont
ceux qui les détiennent.
Voilà. Ceux qui les détiennent, oui, c'est cela.
Voilà. Donc, il faut faire attention et être précautionneux et un petit peu relativiste, peut-être, de temps en temps.
Il a fallu l'être, en tout cas, pour se rendre compte que les animaux avaient des savoirs et qu'ils le transmettaient. Aujourd'hui, la question se pose de quelle manière ils le transmettent. Est-ce que ces cultures sont cumulatives? Voilà. On transmet la culture, éventuellement, où un jeune apprend comment utiliser une brindille pour pêcher des termites, mais est-ce que d'autres viennent et améliorent la technique? Actuellement, il y a des collègues qui travaillent sur les chimpanzés et qui regardent de quelle manière les chimpanzés vont chercher pêcher du miel dans les ruches et chez les abeilles sauvages qui vivent et qui créent des souterrains. Ils savent à quel endroit il faut plonger la baguette dans la terre pour aller chercher le miel. Mais on voit que certains améliorent. Certains n'utilisent qu'une baguette, d'autres utilisent une petite baguette et puis après une plus grosse, etc. Donc il y en a qui ont amélioré la technique. Donc il y a des cultures cumulatives chez les animaux. Mais jusqu'où ça va, ça c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore.
Merci beaucoup Michel, merci pour ces précisions encore une fois. Et à la prochaine émission pour un nouveau sujet autour des animaux. Merci encore.
Merci à vous.